Bonjour, Marco, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feu. C'est reparti pour une saison de contes et d'histoires, toutes sortes de contes, toutes sortes d'histoires, et cette fois encore des histoires étranges, des histoires bizarres, des contes à rebours. Mais avant de commencer, je déniche toujours des vieux textes, enfin magnifiques, que je trouve magnifiques. Là, il s'agit du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc ça ne nous rajeunit pas, et c'est une femme. Enfin, ça change des vieux barbus comme Chuang Tzu, Lao Tzu et autres chinois. Bilitis, elle s'appelle, et elle a côtoyé Sappho. On est donc dans la Grèce antique. Elle est très peu connue. Merci à Pierre Louis qui l'a traduit et qui a traduit ses chansons à la fin du 19e siècle. Trois parties on trouve dans cet ouvrage, trois périodes dans sa vie. Bucoliques en Pamphylie, où elle raconte sa jeunesse pastorale. Élégie à Mytilène, où elle nous plonge dans la sensuelle capitale de l'île de Lesbos, au temps de sa splendeur. Épigramme dans l'île de Chypre, où on la retrouve courtisane dévouée au culte d'Aphrodite. Commençons par la jeunesse et suivons ses pas dégourdis sur les pentes du mont Taurus. Je me suis dévêtu pour monter à un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide, mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mis à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient, coulaient sur ma peau, mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause des fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors je serrai mes jambes davantage et j'appliquai mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.
Mustafa, hai prošetala suljagina fada, hai prošetala domo...
Les chansons de Bilitis, j'y reviendrai puisque pour cette saison, ou en tout cas pour quelques mois, tant que ça me chante, bien ce seront ces chansons que je dirai en début de cette émission, Compte à rebours, qui est enfin, maintenant, qui enfin peut porter son nom, puisque aujourd'hui je vais raconter des vrais contes à rebours, puisque la plupart des histoires viennent d'un bouquin qui justement porte ce nom. Eh oui. Vous rappelez Bernard Grand et Jacques Pradel, dans les années 70, le temps de vivre sur France Inter. Il y avait des histoires, des nouvelles. Et en fait, il demandait à tout un tas d'amis, des journalistes de France Inter, comme Claude Mazot, des écrivains, des musiciens comme Michel Buller, Robert Papin, Yves Jossot, enfin là, c'est plus un musicien, c'est un journaliste, un écrivain aussi, Michel de Villers, en fait. Il rassemblait tout un tas d'amis, leur demandait « écrivez-nous des petites histoires ». Et ces histoires ont été dites à la radio, mais elles ont été éditées aussi aux éditions Mengès. Je suis retombé sur ce livre en rangeant mes cartons, un livre qui date quand même des années 76 ou 75. On est donc au siècle dernier. Et voilà, c'était toujours le même principe, le court récit. Et là, on est un peu dans l'humour, et puis on est dans les contes aussi, puisqu'il y a le vilain petit canard, il y a Cendrillon, il y a la belle au bois dormant, mais pris dans un drôle de sens, peut-être à rebours. Voilà donc, aujourd'hui, des vrais contes à rebours. Et on commence tout de suite avec Histoire en rond. Cet après-midi-là, Amédée Douceville constata avec déplaisir que ses oreilles le grattaient. Cela commença par un léger chatouillement qui ne fut d'abord qu'un peu énervant, mais dégénéra bientôt en une désagréable démangeaison que l'introduction réitérée d'un crayon dans le conduit auriculaire ne suffit bientôt plus à calmer. Amédée Douceville décida donc, en sortant du bureau, de passer chez le pharmacien, ce qui ne le détournait que peu de son chemin. « Bonjour !» dit-il à l'homme de l'art. « Je viens vous voir parce que j'ai les oreilles qui me grattent. »« Bourdonne-t-elle ? » demanda le pharmacien. « Non, » répondit Amédée. « Elle se contente de me démanger, mais en silence, du moins pour l'instant. »« C'est 12 francs, » annonça le pharmacien. « Vous en prendrez une toutes les 2 heures. » Et Amédée rentra chez lui muni d'une ravissante boîte de pilules dont l'aspect seul inspirait confiance. Il suivit scrupuleusement les prescriptions et se réveilla le lendemain matin, débarrassé de ses démangeaisons d'oreilles. Mais il constata que les pilules avaient tendance à lui donner des éblouissements. « Des éblouissements ? » dit le pharmacien. « Comme c'est bizarre. Vous devez être allergique au phénogardénol. » « C'est très flatteur, » dit Amédée, « mais ces éblouissements m'ennuient. » « Je me mets à votre place, » approuva le pharmacien. « Prenez ces suppositoires, ils sont souverains contre les éblouissements. » Les suppositoires étaient souverains contre les éblouissements, en effet. Mais Amédée dormit très mal cette nuit-là, obligé qu'il fût de bondir hors de son lit chaque fois qu'une crampe lui tenaillait le mollet. « Des crampes, dites-vous ? » fit le pharmacien tout songeur. « Ce n'est rien. 2 ou 3 de ces comprimés, vos crampes disparaîtront aussi vite qu'elles sont venues. » Le lendemain matin, Amédée retourna chez le pharmacien. « Vous savez que vous êtes un cas, » lui dit ce commerçant paramédical. « Je commence à le croire aussi, » répondit Amédée, « parce que vous êtes le premier à qui ces comprimés contre les crampes donnent des insomnies. »« C'est très possible, » dit Amédée, « mais j'ai besoin de dormir, moi. »« C'est 15 francs, » annonça le pharmacien. Amédée prit des somnifères. Et le lendemain, il arriva au bureau avec 2 heures de retard. Il se dopa, ce qui l'obligea vite à prendre des tranquillisants, car sa nervosité lui jouait des tours. Les tranquillisants lui donnèrent des crises d'emphysème qu'il guérit avec des piqûres. L'eczéma provoqué par les piqûres disparut assez rapidement après quelques applications d'une pommade spéciale. Et Amédée eut recours au bistouri pour se débarrasser des verrues que la pommade lui avait fait pousser sur tout le corps. Il n'était pas riche et toutes ses dépenses lui occasionnèrent un ulcère qu'il soigna à l'aide de cachets contre les brûlures d'estomac. Amédée prenait 6 cachets par jour contre les brûlures d'estomac. Ces cachets remplissaient parfaitement leur office, mis à part un simple détail. Amédée ne souffrait plus de l'estomac, mais les cachets lui donnaient des démangeaisons d'oreilles. Personne ne retrouva jamais l'assassin du pharmacien de la rue Quincampoix. Le vilain petit canard. Il était une fois dans une basse-cour une canne qui attendait un heureux événement. À dire vrai, étant donné le nombre d'œufs qui étaient prêts d'éclore dans son nid, elle n'attendait plutôt plusieurs heureux événements. Un beau matin, alors qu'elle revenait de la mare où elle avait été se passer un peu d'eau sur la figure, elle trouva ses œufs éclos et 6 ravissants petits canetons en train de pépianer, essayant de se dresser sur leurs petites pattes malhabiles. Enfin, quand je dis si ravissant caneton, c'est une façon de parler, car le sixième avait un curieux aspect. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemblait pas à ses cinq frères. Quand il le vit, papa canard entra dans une colère épouvantable. « Ah, c'est parfait ! Regarde-moi ça !»« Mais chérie, il n'y a pas de chérie qui tienne !»« Tu ne vas pas me dire que cette petite horreur est mon fils ! Avoue que tu m'as trompé ! Je te jure, Ernest, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu me fais porter des cornes ! Je vais être la risée de toute la basse cour !» Ça, évidemment, un canard avec des cornes. C'est ça, paie-toi de ma figure pendant que tu y es. Monsieur Canard tempêta, Madame Canne sanglota et menaça de retourner chez sa mère. Les canetons piaillèrent de plus belle. Nous en reparlerons, dit le canard. C'est ça, répondit la canne. En attendant, je te ferai remarquer que j'ai autre chose à faire que d'écouter tes idioties. Et, dignement, suivie de ses six rejetons, elle se dirigea en se dandinant vers la mare où elle plongea. « Mon Dieu, qu'il est bizarre !» s'exclama la basse cour entière en regardant le sixième petit caneton. « Quel vilain petit canard ! Regardez cette curieuse façon de nager !» cria une poule. « C'est vrai !» ajouta la chèvre. « Je n'ai jamais vu un caneton nager de cette façon !»« C'est une sorte de brasse coulée !» dit un coq qui avait été dans sa jeunesse mascotte aux Jeux Olympiques. « Pas du tout ! Ça s'appelle l'overarm stroke !» hennit un poney qui voulait se donner le genre anglais par snobisme. « Lève la tête, on te mettra une voile !» cria le chien de la ferme qui se croyait spirituel, et tous de rire. Le pauvre petit caneton faisait tout ce qu'il pouvait, et tous ses colibés le rendaient triste. Il devint vite le souffre-douleur de ses petits frères. C'était son duvet qui était comme ci, ses pattes qui étaient comme ça, ou bien sa couleur, ou bien le fait qu'en dépit de tous ses efforts, il était incapable de faire coin-coin convenablement. Bref, il était très malheureux. Jusqu'au jour où Papa Canard le surprit en train de ronger un navet, ce qui est très mal vu chez les canards parce que c'est censé porter malheur. Chassé honteusement, le vilain petit canard, retenant ses larmes, s'enfuit loin, loin, de l'autre côté du grand étang, aussi loin qu'il put nager. Et là, pendant qu'il se lamentait sur son triste sort, un splendide oiseau d'un blanc pur comme la neige fraîche arriva en glissant sur l'eau comme un beau navire. Vous avez deviné, c'était un cygne. Relevant la tête, le vilain petit canard sourit, ce qui lui fit vraiment une drôle de tête. Il regarda le cygne qui s'approchait et une grande joie l'envahit jusqu'au moment où le cygne commença à lui donner des coups de bec. Le vilain petit canard s'enfuit en sanglotant tout au fond de la forêt où il vécut solitaire le reste de ses jours sans jamais trouver personne pour lui dire qu'en réalité, il était un lapin. Ce qui n'a au fond pas grande importance car si en tant que canard il était vraiment vilain, en tant que lapin, il n'était pas terrible non plus. La Belle au bois dormant. Il était une fois une princesse fort belle et fort curieuse, à qui une marraine de mauvaise humeur avait prédit que si elle touchait un rouet, il lui arriverait malheur. Le roi et la reine, ses parents, s'inquiétèrent fort. Bien sûr, à ces temps-là, les princesses n'avaient pas coutume de travailler beaucoup. Il serait même plus juste de dire qu'elles n'en fichaient pas une ramée. Seulement voilà, des rouets, il y en avait partout. Ils se rassurèrent quelque peu en constatant que la princesse, tout en devenant fort gracieuse et spirituelle, n'insistait pas le moins du monde pour faire le travail à la place des autres. Bref, elle se montrait assez caussarde, ce qui rendait sa rencontre avec un rouet extrêmement problématique. D'ailleurs, la seconde marraine de la petite, qui avait la détestable habitude d'arriver en retard, malheureusement, avait un peu amélioré les choses. Avec un prince charmant en parfait état de marche, tout pouvait encore s'arranger. Vous remarquerez au passage que les marraines, plus ou moins faits, faisaient preuve d'un déplorable manque d'imagination. Il ne s'agissait jamais d'un plombier zingueur ou d'un contrôleur des contributions, non, toujours un prince charmant. ce qui fait que les princes charmants étaient rarement disponibles. À l'heure actuelle, ce seraient plutôt les plombiers zingueurs, mais passons. Bon. Je vous ai dit que la princesse était fort curieuse. Oui, je vous l'ai dit. Le château du roi et de la reine abondait en recoins, tourelles, échauguettes, bretèches. Ça, vous savez pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs. Et escaliers plus ou moins dérobés. La princesse passait ses journées à galoper partout, dans les coins les plus impossibles. Elle parvint un jour tout en haut d'un petit donjon un peu délabré. Les impôts rentraient mal. Dans une vaste pièce basse de plafond à poutres apparentes très résidence secondaire dont les fenêtres à meneaux donnaient sur la cour d'honneur. Une vaste pièce dans un petit donjon. Comment se fait-il, me demanderez-vous? Eh bien, c'est parce que dans ce temps-là, ils avaient de vrais architectes. Et si vous continuez à poser des questions idiotes, comment voulez-vous que je vous raconte la belle Bois Dormant? Donc, continuons. Dans cette pièce, la princesse aperçut une vieille femme, toute courbée, toute ridée, une vieille femme, quoi. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette vieille femme? Et c'est ça, exactement, vous avez deviné. Elle était en train de filer de la laine avec un rouet. La princesse, curieuse comme toujours, s'approcha et paf! Elle se piqua le doigt sur le fuseau. « Fais attention, lui dit la vieille, c'est comme ça qu'on attrape un panari. »«
Non, mais ça va pas, répondit la princesse. Vous avez entendu déjà parler de panari dans un conte de fées, vous ?»
Et elle tomba aussitôt, profondément endormie. On l'étendit, fraîche et sommeillante, sur un lit d'apparat, et la bonne fée, sa marraine, d'un coup de baguette magique, endormit tous les occupants du château. Et le temps s'écoula, 100 ans exactement. Dans les contes de fées, c'est toujours 100 ans, ça fait un conte rond. Au bout de 100 ans donc, un beau prince charmant du nom de Pléonasme entendit parler de la belle endormie, ce qui confirme que les princes charmants avaient beaucoup de travail à l'époque, parce que même maintenant, on n'attend pas un plombier 100 ans. Mais revenons à Pléonasme, au prix de 1000 difficultés, luttant contre les ronces, les épines, sans compter un dragon muni d'un nombre de têtes non seulement invraisemblables, mais profondément incommodes, il parvint à la grande salle où dormait la belle au bois dormant, car c'était elle. Il s'approcha sur la pointe des pieds, ce qui ne voulait pas dire grand-chose si l'on pense que son intention avouée était de la réveiller. La princesse se reposait paisiblement, blonde et rose, dans sa robe blanche, ses beaux yeux fermés. Quand on dort, ça aide. Sa longue chevelure répandue autour d'elle. Comme elle était couchée sur le dos, elle ronflait légèrement. Le prince charmant se pencha et doucement, doucement, l'embrassa sur les lèvres. La princesse battit des cils, ouvrit les yeux et murmura « Sois gentil, chérie, pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Alors le prince charmant se coucha à côté d'elle et lut un roman policier jusqu'à 5 heures du matin. Pourquoi les personnages de contes de fées n'auraient-ils pas, eux aussi, leurs problèmes sexuels? Maintenant, une histoire zen. En réalité, là, c'est une histoire juive, hein, mais c'est pareil, finalement. Un étudiant se rend auprès d'un vieux rabbin et lui dit « J'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision. J'ai décidé de mourir. » « Ah, ce n'est pas une solution, » lui dit le rabbin. Le jeune homme s'en va. Il revient une semaine plus tard en disant « Tu avais raison. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de vivre. » « Ce n'est pas une solution, » lui dit le rabbin. « Mais tu m'as dit que mourir n'était pas une solution, maintenant tu me dis que vivre n'est pas une solution, alors quelle est la solution ?»« Parce que tu crois encore qu'il y a une solution ? Lui dit le rabbin. Nasreddin est de retour. Il est ce jour-là confortablement installé à l'ombre sur le toit en terrasse de sa petite maison. La température y est très douce et il compte bien paraisser là jusqu'au soir. Soudain, il est tiré de sa torpeur par une voix qui crie.
Hey « Hé ! Nasreddin ! Nasreddin ! Es-tu là ? Oh ! Viens voir un peu en bas ! »
Nasreddin se garde bien de répondre à cet importun. Il continue de sommeiller.
Oh ! Nasreddin, je sais bien que tu es là-haut ! Descends, j'ai une question importante à te poser !
Comme les appels ne s'arrêtent pas, Nasreddin finit par se lever à regret et il descend et trouve devant l'entrée un mendiant qu'il connaît.
Nasreddin, j'ai une question à te poser !
Eh bien, pose ta question.
As-tu une pièce à me donner ?
Ah, oh, par Allah, quel malin tu fais ! Tu le sais bien qu'on ne me dérange jamais pour rien. Allez, tiens, monte avec moi. Et ils grimpent tous les deux jusqu'au faîte de la maison. Lorsqu'ils sont arrivés là-haut, Nasreddin lui dit « Maintenant, je vais te donner ma réponse. » « Non !» Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui, il me semble. Alors, pour ceux qui veulent savoir la musique qu'on a entendue, l'accordéon, c'était Michel Macias qu'on entend dans la région, un fameux accordéoniste qui sait faire danser. Puis, les histoires donc Compte à rebours aux éditions Mingès, ça se trouve peut-être encore. Ça fait partie des histoires qui ont été entendues sur France Inter il y a longtemps. Et même ces histoires ont un petit parfum des années 70, parce que c'est le début où on démolit les contes, où les héros ont des problèmes sexuels. C'est vrai que maintenant, on est allé beaucoup plus loin. Et puis, que dire d'autre ? Les musiques que vous avez entendues par-dessus, c'était des musiques japonaises, bizarres, des gens qui crient, des choses étranges. J'ai trouvé ça sur une compile que m'a fait un ami belge, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais si vous en voulez vraiment, écrivez à la radio et je ferai des recherches. Pour aujourd'hui, eh bien, c'est fini, je crois. À la semaine prochaine.